Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans le quatrième et dernier chapitre de notre épisode consacré à l'aventure Bao Family. Alors Céline, dans le chapitre précédent, on a évoqué les dernières ouvertures et l'organisation du groupe Bao. Parlons maintenant de l'avenir. Et tout d'abord, donc précisons qu'on enregistre le podcast en fin février 2024. Et dans quelques semaines, vous allez vivre une étape décisive dans l'évolution du groupe, puisque pour la première fois, vous allez sortir de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, on ouvre du coup notre premier restaurant en dehors de Paris. On a choisi la ville de Marseille pour nous implanter. Et on va ouvrir en avril du coup.
Ouais. Avril
2024.
Où est-ce que vous vous installez?
On s'installe au Cours Saint-Louis, donc dans le quartier de Noailles, à côté du Vieux-Port, à côté de la Canebière, qui est la rue la plus fréquentée de Marseille. On a repris une institution marseillaise, qui est l'ancien Toinou, une institution de fruits de mer. Et là, on ouvre pour la première fois, et vous avez l'info en exclusivité.
Ah, génial, j'adore.
Waouh.
Parce qu'on est sur Business of Bouffe, c'est par le business.
Ouais.
On ouvre pour la première fois, en fait, un restaurant qu'on a déjà créé.
Non, c'est un petit bao, c'est quoi?
C'est un gros bao.
Un gros bao,
mais tout bleu.
Tout rouge.
Vous reprenez, là, c'est la première fois que vous dupliquez, ça c'est hyper intéressant.
Ouais.
Donc vous reprenez les codes du gros bao parisien et vous l'installez à Marseille. J'ai une question avant qu'on détaille, mais pourquoi Marseille?
Alors Marseille, on a fait le tour des grandes îles de France. Donc on est allé à Lille, à Lyon, à Bordeaux, Marseille.
On va se faire des potes là, vas-y, pourquoi tu les as foutés?
Alors nous, je pense que vous l'avez compris, on est des gens, on aime quand même suivre notre énergie et on marche quand même au coup de cœur. Souvent même dans les lieux, on aime les lieux, on aime les quartiers. On a adoré Marseille. C'est juste qu'on a eu un coup de cœur pour Marseille.
La culture, la scène food.
Exactement. Il y a la lumière. Non, il y a deux éléments. C'est la scène gastronomique qui est en train de monter.
Ouais, c'est clair.
Ouais,
ça, c'est exceptionnel depuis un an et demi, mais c'est incroyable. Ouais, ouais. Les chefs incroyables qu'il y a là-bas. Le nombre de restaurants qui ouvrent là-bas, c'est juste dingue. Et deuxième aussi sujet, mais qui est plus en rapport avec notre histoire, c'est qu'en fait, Marseille, c'est un carrefour de culture.
Ouais.
C'est un carrefour d'immigration des populations, tu vois, du nord de l'Afrique et aussi d'Italie. Et je trouve ça exceptionnel. Quand on arrive, notamment dans ce quartier de Noailles, on sent qu'en fait toutes les cultures se mélangent et ils arrivent à vivre en harmonie. Et moi, c'est ce qu'on a ressenti en fait à Marseille. Et en fait, c'est ce qui est caractéristique de notre histoire et de qui on est.
Donc là, il y a un alignement par rapport aux valeurs, en effet. Ouais.
Exactement. Et c'est comme ça que le choix s'est fait. Et plus toujours aussi pour l'opportunité du local.
Ce que j'allais dire, vous avez choisi d'abord la ville ou c'est le local qui a choisi la ville? Enfin, qui a été déterminant dans le choix de la ville?
Alors, en fait, on étudiait plusieurs opportunités en même temps dans les différentes villes. Et du coup, Marseille...
C'était quoi les finalistes
Françaises. Il y avait... les finalistes, c'était Lille, Bordeaux et Marseille.
D'accord.
Et après, on avait Lille et Marseille.
Pas Lyon.
Et ensuite, Marseille. Okay. Alors, Marseille, c'est plus... Lyon, on aime beaucoup la ville. On n'avait pas encore trouvé de local, nous intéressait. Ouais.
Ouais.
Et du coup, à Marseille, on avait le combo gagnant, la ville plus le local qui était hyper
génial.
Bien placé.
Ouais.
Vraiment au centre de là où tout se passe. En face de la mercerie, en face de Maison Empereur, à côté de l'épicerie idéale, en face de Pétrin Couchette. Enfin, on s'est dit, OK, c'est au cœur de là où ça se passe.
Quelle surface alors, cette.
350 mètres carrés.
Ça correspond complètement à Gros Bao.
Exactement.
Donc, c'est facile de dupliquer.
Pourquoi alors, cette fois-ci, vous avez choisi de dupliquer un projet existant, enfin, un lieu existant, plutôt que de créer un nouveau concept?
Alors, du coup, c'est génial de créer des nouveaux concepts. Et en fait, je pense que on avait besoin d'expérimenter aussi tous ces univers de restaurants. Là aujourd'hui, en fait, tous ces univers de restaurants qui soient différents, avec des cartes aussi qui sont légèrement différentes, ça entraîne énormément de complexité opérationnelle qu'on vit en fait au quotidien. Et cette complexité opérationnelle de formation, d'attention aux détails, en fait, partout, tout le temps, c'est aussi ce qui fait que ça nous empêche aussi d'avancer sur autre chose. Donc, en fait, là, dans une ambition aussi de pouvoir offrir notre expérience Bao dans d'autres villes de France, on s'est dit on peut pas garder la même complexité tout en aussi étant sur un territoire aussi...
Là, la nouveauté, c'est la géographie.
Exactement.
Donc, il faut être raisonnable. On attaque une nouvelle ville, c'est une nouvelle organisation. Par contre, du coup, on va s'appuyer sur nos forces, on duplique ce qui marche.
C'est exactement ça.
Comment vous organisez justement là-bas? Parce qu'il n'y a plus de cuisine centrale, donc il faut repartir sur un recrutement. Comment vous organisez cette première sortie de Paris?
Du coup, en fait, ce qui est génial avec notre cuisine centrale, c'est qu'elle peut livrer aussi les autres villes de France.
D'accord.
Donc là, ça va être, ça va être une logistique de livraison. Donc en fait, tous les produits qu'on aura à Paris, même les produits asiatiques, parce que c'est pas aussi évident de trouver les mêmes fournisseurs en fait ailleurs. En fait, tout ça, notre cuisine centrale pourra fournir.
C'est pas plus cher de livrer plutôt que d'avoir une autre cuisine près du restaurant à Marseille ou alors une plus grande cuisine juste.
Alors en vrai, c'est un coût logistique clairement, mais qu'on assume parce qu'en fait, on sera certain du niveau de qualité. Ouais. De ce qui va venir de Paris.
Donc là, les brioches des Bao, elles seront toujours produites en Île-de-France. Et ça se transporte comment? En frais, en surgelé?
Oui.
En surgelé.
Oui, maintenant, il y a des méthodes de surgélation.
C'est surgélation.
Exactement, qui te permettent de conserver exactement la même qualité du produit, mais de le conserver beaucoup plus longtemps.
Comment vous vous organisez pour les équipes et les recrutements? Est-ce que vous avez une partie des équipes qui vient depuis Paris, avec qui vous travaillez déjà, qui va assurer l'ouverture et la formation d'autres équipes que vous recrutez localement? Et vous aussi, comment vous allez gérer votre temps avec Billy entre Paris et Marseille et votre énergie?
Tu vas t'installer à Marseille.
Exactement. Bah là, ça y est, on a loué un appartement à Marseille.
T'as un énorme sourire quand tu dis ça. Visage rayonne.
Exactement. Non, mais du coup, clairement, on a pris un appartement pour l'équipe BAO. Donc à la fois pour Billy et moi, mais aussi pour notre directeur des opérations, le directeur qui va faire l'ouverture de Marseille, notre équipe com, marketing, tous les gens en fait de Paris qui auront besoin d'aller à Marseille auront ce lieu-là disponible.
Un grand appartement géant.
Un grand appartement.
Un peu comme Big Mama en fait l'a fait à Paris.
Exactement. Donc on a cet appartement là pour les équipes.
Le Bao Studio. Non, studio, c'est le studio créa.
Bao House.
Bao House.
Et après nous, notre intention là à Marseille, c'est vraiment de recruter des équipes locales, que ce soit au niveau de la direction et aussi au niveau des cuisines, que ce soit vraiment des personnes locales parce qu'elles maîtrisent la ville et c'est chez eux et ils comprennent aussi les codes locaux. Mmh. Et en fait, avec la Bao School, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un organisme de formation qu'on a en interne. Ouais. En fait, les personnes du coup responsables de la Bao School à Paris vont aller à Marseille pour former les équipes.
Ouais.
Donc, ils vont former des équipes sur l'expérience client, sur le service, sur la cuisine, sur les process. Et donc, c'est déjà prévu que notre directeur d'ailleurs de Bleu Bao ira à Marseille pendant un mois.
Pour former.
Exactement.
Voilà. Tout est bien pensé, tout est bien huilé. Quels sont les autres projets à court terme? Il y a d'autres ouvertures à Paris ou en région?
Ou à l'étranger.
Évidemment. Alors, j'allais dire à moyen terme, ça, mais ouais,
bien
vas-y.
Bien sûr. Alors, à court terme.
Je sens que vous êtes ambitieux, donc vous avez tout écrit, tout pensé.
En tout cas, à Paris, l'idée après Marseille, c'est vraiment de continuer à rayonner sur Paris. Mmh. Et du coup, on a une sixième ouverture qui est prévue rue du Faubourg-Saint-Denis.
D'accord.
Dans le 10e arrondissement.
Toujours hypercentre, ouais.
Exactement.
Nouveau concept.
Mais non, là, autre info exclusive.
Oh là là.
Non, mais vous êtes gâtés. Non, et là, on ouvre Petit Bao.
Waouh. Ok.
Rue du Faubourg Saint-Denis.
Un autre Petit Bao.
Ouais, exactement.
Donc ça y est, vous commencez à dupliquer.
Alors ouais, là, ça y est, on a choisi en tout cas de...
C'est proche quand même les deux Bao, parce que rue Saint-Denis, c'est assez proche.
C'est hyper proche.
Vu que Petit Bao est full, il y a la place pour une autre adresse. Puis à Paris, c'est plein de micro-quartiers. Donc
ouais,
là,
c'est exactement ça. En fait, ce qu'on...
On traverse les boulevards, donc forcément, on touche aussi... une autre population et un autre quartier, quoi.
Ouais. Exactement. En fait, Petit Bao, pour nous, c'est vraiment le restaurant de quartier.
Donc, un autre Petit Bao, tu t'as dit la date, quand?
Ça sera cet été.
Cet été.
C'est soit avant les JO, soit après les JO.
Donc, on est quand même sur une temporalité particulière.
Vous commencez du coup à regarder l'étranger?
Alors, à l'étranger, on a déjà été approchés pour Dubaï, parce que ils sont fans de cuisine chinoise. Et nous, on a un coup de cœur pour l'Espagne.
Ouais, j'allais dire les autres capitales, un peu sur le modèle de Big Mama, Madrid.
Exactement, Madrid, on aimerait beaucoup.
Et vous le feriez toujours en propre? Vous n'avez pas songé à faire un système de franchise, par exemple?
Alors, pour l'instant, on est vraiment sur des restaurants en propre.
Ouais.
Je pense qu'au vu de la taille qu'on a, c'est quelque chose qu'on peut encore maîtriser et on verra bien plus tard.
Donc peut-être l'Espagne, il y a d'autres pays qui vous font rêver. Il faut rêver, ça commence par des rêves.
Ah oui, mais alors,
vas-y, rêve.
Après bien sûr, toutes les capitales européennes, moi clairement ça me fait rêver. Londres exactement, Amsterdam, Berlin. Et après moi, mon plus grand rêve et le plus grand rêve de tous, ce serait qu'on aille en Asie.
C'est ce que j'allais te demander.
C'est ça.
Encore sur le modèle de Big Mama qui vient d'Italie.
Exactement. Alors là, c'est très très loin, tu vois, parce que on a déjà l'Europe à.
C'est joueur, là.
Ouais, mais alors en Asie,
vous allez pas pouvoir livrer depuis la cuisine de Vitry.
En Chine, donc tu t'imagines en Chine, dans des grandes agglomérations. Enfin, tu me diras après la Chine, tu peux. Elle est partout, quoi.
Mais oui, non, mais
en vrai, tu crois qu'il y a, il y a de la place ou, parce qu'il doit y avoir là-bas déjà, il y a, forcément, moi je connais moins bien, hein, mais.
Bien sûr. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allée à Shanghai, donc là, je peux pas vous dire pour Shanghai, c'est, il faut vraiment que j'y retourne. Par contre, à Hong Kong, je le vois.
Ouais.
Enfin, c'est sûr qu'il y a de la place.
Comment tu l'adapterais? Est-ce qu'il y aurait une touche un peu européenne, française ou...
Oui, je pense que, justement, même quand, je trouve ça intéressant, même dans les noms, tu vois, on a choisi de mettre à la fois toujours des noms français, petit Bao, ouais, gros Bao. Oui. Je pense que cet attachement culturel, il est important. Enfin, ça fait partie de notre histoire. Et donc, même si on va à Hong Kong ou en Asie, je pense que c'est important de garder ça.
Petit Bao, gros
voilà,
Bao.
Exactement. Ouais. Et je pense que dans la carte, il faut qu'on soit traditionnel, mais qu'on apporte aussi notre caractéristique un peu
voilà,
française,
ouais.
Notamment des fromages comme.
Le Bao cheese, exactement.
Raclette, mais ouais,
exactement.
Mais canon, ça.
Ouais.
Ça pourrait marcher. Ouais.
Bah. Exactement.
Il y a d'autres activités, mais en dehors de la restauration, par exemple, des développements, je sais pas, dans l'hôtellerie, parce qu'on a compris que vous étiez des gens ambitieux, est-ce que, et vous êtes accompagnés de business angels qui doivent l'être certainement aussi. Est-ce qu'il y a des activités auxquelles vous rêvez qui peuvent être complémentaires, l'hôtellerie, par exemple?
Alors,
Hospitality au sens large.
Hospitality au sens large. On y avait pensé. Mmh. Et en vrai, je pense que c'est un rêve qu'on partage tous. Après, c'est vrai que, au niveau de aussi ce qu'on a appris, finalement, en moins de 5 ans, on a quand même fait un bar à cocktail, une boulangerie, des restos de plein de tailles, des kitchens, un bar au market. Enfin, là, on fait de la mode avec Puma. Enfin, on a expérimenté déjà beaucoup de choses. Et c'est génial. Je pense que là, on est plus. Je pense que ça y est, l'entrepreneur, on est plus raisonné. Je pense qu'avec. Non, mais avec.
Il y a un temps pour la folie qui permet de sortir, de casser les codes, puis après, il faut rationaliser, puis surtout,
faut stabiliser.
Il faut que ça marche, quoi. Et honnêtement, là, il y a un boulevard à dupliquer ce qui marche, géographiquement, ou même des concepts. L'idée, c'est pas forcément de partir dans tous les sens.
Voilà, exactement. Mais je pense que la vraie folie, ce serait vraiment qu'on ait. Que le territoire devienne vraiment beaucoup plus large au niveau du monde. Ça, c'est déjà. Enfin, c'est déjà. C'est énorme.
Ouais. Comment tu vois Bao Family dans 10 ans?
Ah, moi, mon rêve, c'est que à chaque fois que quelqu'un se dise je veux manger chinois, il va chez Bao.
Bah, à Paris, ça commence à être ça déjà. Sur une certaine population, de certaines communautés. Bon, bah, c'est cool. Avant de clôturer le podcast, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. On a vu, hein, t'es une entrepreneuse hyper inspirée, surdouée du business de la bouffe. Donc, on va essayer d'en profiter et de capter quelques visions, quelques intuitions, comprendre voilà, comment toi tu regardes aujourd'hui le monde de la restauration et comment tu vois ses projections. Alors, déjà, quel regard tu portes sur le monde de la restauration aujourd'hui? Est-ce qu'on mange mieux au restaurant aujourd'hui qu'il y a quelques années? Qu'est-ce qui a évolué en bien, en mal? Pas forcément Bao et Chinese food, là, vraiment global.
Bien sûr. Alors, ce que j'observe, en tout cas, à Paris, parce que c'est le marché, on va dire, que je connais que le mieux, c'est qu'il y a une surcréativité sur le marché de la food. C'est incroyable. C'était déjà le cas à l'époque, hein. 5 ans, c'est déjà fou, mais alors là, c'est un truc de malade.
Des nouveaux concepts.
Des ouvertures tout le temps. Des ouvertures tout le temps, un gros accès street food, avec soit beaucoup de street food, soit beaucoup de bistro cool.
Ouais.
C'est vraiment les deux gros pans qui sont vraiment surpeuplés, je trouve.
Quel type de concept a dernièrement retenu ton attention? Pas la question facile, ça.
Non.
T'as peur de froisser des potes?
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, non, mais c'est plus parce qu'en vrai, moi, je regarde c'est plutôt personnel, mes inspirations, mes sources d'inspiration sont très souvent étrangères.
Ouais.
Et pas souvent parisiennes, ouais. Parce qu'en fait, je trouve, c'est pour froisser personne, mais je trouve qu'à Paris, beaucoup de choses se ressemblent. C'est-à-dire que dans l'approche des cartes, même dans les lieux, beaucoup de choses se ressemblent. Et moi, ça me.
Ça, c'est un point intéressant. Il y a plus de créativité pour toi dans d'autres. Pays, d'autres capitales.
Ouais, je trouve.
Quels sont justement les villes ou les pays qui, pour toi, regorgent davantage de créativité?
Alors, ça change tout le temps. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par Londres au début. Mmh. Quand j'ai commencé Bao, c'était vraiment Londres, même Londres-New York. Ensuite, ça a switché à Hong Kong.
Ouais.
Et maintenant, c'est Séoul-Los Angeles.
Ah ouais?
Ouais. Et enfin, c'est vraiment mes inspirations, mais plutôt en termes de lieu de vie. de design et comment en fait ils mettent un peu du design dans tout.
Ouais.
Et ça a beaucoup de vie avec toujours avec un énorme focus sur la qualité du produit, produit exceptionnel, carte exceptionnelle, et dans des lieux en fait qui vivent du matin au soir.
Ouais.
De manière un peu différente. Mmh. À Los Angeles, ce qui est génial. Alors, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, mais moi, j'adore les petits déj, en fait, qui s'éternisent jusqu'à 17h. Le gros breakfast. Et ensuite, après le breakfast, t'as une carte du soir. En fait, ça se transforme en cave à vin, cave à manger à partir de 17h avec eux.
Des vrais lieux de vie qui mutent en fonction du moment et de la journée et des attentes.
Ouais. Exactement. Et en vrai, ça m'inspire énormément. Et c'est pour ça, en fait, avec Bao Express, l'idée, c'était d'avoir un lieu qui était ouvert du matin au soir, c'est de 8h, enfin du petit-déj pour avec la bakery, le resto midi et soir et le bar jusqu'à 2h du matin.
Ça, ça a moins bien marché en France.
Voilà. Voilà.
Pourquoi ? Parce que le français est moins friand.
En fait,
on a besoin de mettre les trucs dans des cases.
C'est fixe.
Ouais. Oui, exactement. Mais c'est ce que je comprends maintenant, tu vois.
Ouais.
c'est que en fait, forcément, on est attaché à une certaine forme de consommation, de culture en France qui est celle-ci. Et c'est sûr que je trouve que changer les habitudes de consommation en France, ça prend du temps.
Donc en France, c'est un resto, une boulangerie, c'est une boulangerie, un bar, c'est un bar. Si tu mixes les trois, tu...
C'est exactement ça.
Il faut changer les choses avec des belles, avec une offre qui va dans ce sens.
Exactement.
Comment est-ce que la restauration, selon toi, peut évoluer pour réduire davantage son impact environnemental ?
Alors,
surtout avec des gros volumes, par exemple, comme avec un groupe comme vous.
Je pense que ça, en vrai, je le sens de plus en plus. Avant, on était plutôt sur de la diversification. Maintenant, je pense que c'est plutôt de la simplification. C'est-à-dire choisir un peu les grands enjeux et choisir les grands produits. Faire un produit qui est super fort, un ou deux produits qui est super, super fort avec les super bons ingrédients et en fait pousser au bout de ça. Alors qu'avant, on était plutôt sur la diversification, mais en fait, on s'éparpille et même on fait appel à plein d'acteurs différents qui créent énormément de choses. Là, je pense que c'est vraiment la simplification. Qui permettra
Moins d'impact, c'est ça ? Pour être plus efficace, avoir moins d'impact.
Exactement.
Et pour toi, les autres enjeux liés à la restauration et liés à l'écologie, c'est quoi ? C'est donc le sourcing, est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, vous, aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que vous prenez comme combat ? Le sourcing, la lutte contre le gaspillage, la réduction des énergies ?
Complètement. Il y a la lutte contre le gaspillage, on essaie d'utiliser, enfin, de faire du zéro waste.
Ouais.
Tous les ingrédients, on essaie de...
Ouais. C'est un objectif. Ouais.
C'est un objectif. C'est un objectif. Et à chaque fois, toutes les parties en fait d'un produit ou d'une recette, on essaie de les réutiliser dans autre chose pour que vraiment rien jeter. Après, on essaie d'avoir 50% de notre carte qui est végétarienne. Et du coup, il y a beaucoup de plats qui, normalement, en Chine, se mangent avec de la viande. Mmh. Nous, on a fait le choix de les faire végétariennes. Les spring rolls, par exemple, normalement, il y a du porc. Nous, on l'a fait complètement veggie.
Pourquoi ? Pour un engagement impact ?
Pour un engagement impact.
Parce qu'il y a une demande,
Non, pour un engagement impact.
Vous pourriez être labellisé Bicorp, écotable. Est-ce que c'est un objectif, d'ailleurs ?
En fait, on a essayé les démarches. Pour l'instant, en fait, nous, ça va être vraiment une question sur le sourcing des produits chinois.
Ouais.
En fait, c'est vraiment sur ce sujet-là. Champignons, shiitake séchés, enfin, des choses sur lesquelles, on peut pas atteindre, en fait, ces labels-là, parce que voilà, il y a certains de nos produits dont on peut se fournir en France qui ne correspondent pas en fait à certains critères.
Quelle part de ton sourcing qui n'est pas français, à peu près ?
Je pense que ça doit être 30%.
Ouais. C'est quoi donc ? C'est champignons,
sauces.
Les sauces soda.
Les shiitake, par exemple, vous ne pourriez pas, c'est pas les mêmes les shiitake français que les shiitake que vous sourcez.
Alors en fait, les frais. C'est français, c'est à la caverne à Paris.
Ouais, culture urbaine.
Voilà, exactement. Par contre, les séchés qui sont méga parfumés, ceux-là, c'est des Chinois.
D'accord.
Et ça, on ne sait pas faire en France ou en Europe, on ne sait pas faire cette qualité organoleptique.
Ouais,
c'est ça.
Pour l'instant, non.
Mais il faut lancer ça, ça doit être possible.
Ah,
non,
ça doit être possible.
Allez, un appel à nos amis entrepreneurs.
Une ferme de produits.
Parce que, pour vous, ce serait bien de pouvoir. A priori, ça peut être un objectif de réduire cet impact sur le sourcing en trouvant un sourcing local sur certains ingrédients. Parce qu'a priori, on peut faire. C'est quoi les ingrédients les plus exotiques d'ailleurs de votre carte ?
Alors les aubergines chinoises.
Donc ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des aubergines qui viennent. Enfin, comment ça.
Type d'aubergine,
oui,
ça vient d'Europe.
Parce que là, tu me faisais peur, on est d'accord. C'est la variété, mais elles viennent pas de Chine.
Oui, bien sûr. Ah non. Non, non, en vrai, en exotique, exotique, ça va être vraiment les sauces chinoises. Ouais. Les vinaigres de riz chinois.
Ouais. D'accord, on pourrait réduire l'impact à ce niveau-là.
Exactement.
Parlons aussi des enjeux sociaux et des, liés aux des conditions de travail, etc., dans le milieu de la restauration, qui est un milieu difficile. Comment est-ce que tu vois les choses? Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? On parlait de la Bao School, par exemple, tout à l'heure.
Alors, c'est un sujet qui est pas du tout évident parce que de moins en moins de personnes ont envie de travailler en restauration au vu des conditions, au vu du rythme en fait.
Vous le voyez vous aussi, même si apparemment ça a l'air d'être assez cool de bosser pour vous, même vous galérez.
En fait, c'est en termes de recrutement, trouver les bonnes personnes. Ça c'est vraiment pas évident. Du coup, c'est pour ça que nous on choisit en fait de créer une Bao School et de créer des programmes de mobilité interne qui nous permettent en fait de valoriser, de faire grandir les personnes qu'on a déjà chez nous, qui nous permet finalement de devoir moins recruter parce qu'on a un turnover qui est acceptable. Sinon, pour acquérir en fait, faire de l'acquisition de nouveaux talents, c'est vraiment un sujet. Et en fait, nous on le traite beaucoup à travers finalement notre image de marque.
La marque employeur.
Exactement. Voilà. La marque employeur.
Cool, la marque enseigne est cool et la marque employeur est cool.
Exactement. Et en fait, les gens vont être... ils sont fiers de faire partie de Bao. En fait, ils sont fiers parce que ils sont fiers de, voilà, de l'expérience qu'on propose, de l'image, de tous les événements auxquels on leur fait participer. Mais il y a beaucoup forcément de team building, un séminaire par an, du sport ensemble.
Ah ouais, d'accord.
En fait, et ce qu'on arrive à créer, je pense, c'est aussi l'aspect communautaire, mais à l'intérieur des restaurants, ils sont amis entre eux.
Ouais.
C'est-à-dire que les serveurs et les chefs sont amis entre eux. En fait, on n'a même plus besoin de rien faire parce qu'ils se voient tous les jours.
Enfin, ça se met en place comme ça.
Tout seul.
Tu risques, après la diffusion du podcast, de recevoir quelques lettres de candidature, mais tant mieux.
mais je pense que créer en fait un environnement, une culture en fait dans laquelle les gens se sentent bien, libres. En fait, ils sont libres d'être eux-mêmes. Il y a 25 nationalités qui cohabitent chez nous, parce que pour nous, c'était hyper important, au vu de nos différences culturelles, justement, de créer un monde où on ne voit pas ces différences et où chacun peut s'exprimer. Et en fait, c'est génial. La langue à parler chez Bao, c'est l'anglais. Et donc la langue officielle c'est l'anglais, tout est en anglais, les fiches recettes sont en anglais, des fois tous les mots sont faits en trois langues.
Merde, alors ils vont pas écouter le podcast.
Non, mais tu vois, toutes les communications RH sont en français, chinois, anglais. Enfin, tu vois, c'est vraiment une entreprise où en fait on apprend tous les jours, mais aussi des différences culturelles de chacun de nos membres. Et c'est hyper riche. Donc je pense qu'on crée un environnement qui est riche, stimulant, dans lequel on essaye de faire en sorte qu'ils s'épanouissent.
Comment est-ce que toi, tu nourris tes réflexions sur le restaurant? Comment tu t'inspires?
Alors, c'est beaucoup à travers les voyages. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis énormément observatrice et cliente, en fait, de tout ce qui se fait un peu dans les grandes villes du monde. Ça, c'est ma première source d'inspiration. Forcément, il y a aussi tout ce que je peux voir, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais là, partout, c'est toujours en France, mais aussi partout dans le monde. Ça, c'est ma deuxième grande source d'inspiration.
Tu suis quel type de compte sur les réseaux sociaux pour te nourrir, justement?
Alors moi je suis pas mal en fait de comptes forcément asiatiques pour le coup. Les gros influenceurs finalement taïwanais, hongkongais, et c'est plutôt des prescripteurs de la food que je vais suivre, parce qu'en fait ils vont donner toute une série en fait d'adresses, et ensuite moi je vais curater en fait ce qui m'intéresse. Et quand ça m'intéresse en termes de food et de design, après je creuse, je tire la chaîne. Mais c'est souvent plutôt les influenceurs food Taïwan et Hong Kong.
La presse food, les critiques, est-ce que tu lis ça aussi?
Alors je regarde Pomelo, le Fooding, Time Out,
Ezekiel,
exactement, même les podcasts, enfin en fait, je me nourris, mais c'est moi, je suis plutôt quelqu'un, en tout cas dans mon approche créative, que j'essaie de pas trop me nourrir non plus, parce que souvent on a tendance à être un peu influencé par ce que peuvent faire les autres, et je veux garder en fait assez intact ce qui ressort de moi.
C'est pas très Tao. Donc là, tu gardes le côté. Et donc, qu'est-ce qui t'inspire en dehors de la bouffe? Est-ce que c'est, enfin, ou de la presse? Est-ce que c'est l'art? Comment tu fais pour t'inspirer, pour créer les conditions de cette inspiration, pour sentir les choses?
Alors,
l'art peut-être. Tu parlais de poésie tout à l'heure.
Ah oui, énormément. En fait, depuis le confinement, j'ai pas mal changé aussi mon organisation de travail. Je pense que j'en avais parlé avec Elisa. J'avais commencé en fait à me garder mon vendredi créatif, ce que j'appelle mon vendredi créa. Et c'était je planifie zéro rendez-vous, à part potentiellement un déjeuner inspiration. Donc tous les gens que je veux rencontrer, c'est souvent le vendredi midi pour le déjeuner. Et après, je me laisse...
J'ai passé, ouais.
Voilà. Si vous voulez, le vendredi midi. et en fait, je m'inspire aussi des gens. Enfin, franchement, les rencontres, ça, c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est aussi, enfin, ce que je vois qui se fait à travers le monde, mais aussi, c'est les histoires des gens, les personnalités, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des artistes, tous les créateurs. Ça m'inspire énormément. Et après, le vendredi, je me laisse vaguer. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller voir une expo, je vais voir une expo. Si je veux voir un nouveau lieu qui a ouvert, qui m'intrigue. Et c'est pas forcément de la food, ça peut être du design, une librairie, un studio. Enfin, un truc, en fait, qui a attiré ma curiosité parce que je trouve que leur approche a été innovante ou intéressante. Je vais aller voir. Je lis beaucoup. Je lis un livre par semaine. Et ça, c'est une nourriture, mais plutôt vraiment intellectuelle et philosophique incroyable.
Quel type de littérature?
Alors, avant, c'était beaucoup des romans. Après, je suis passée à la littérature assez classique française ou russe ou japonaise.
Ouais.
Et après, un peu de philo. Et maintenant, beaucoup de poésie un peu spirituelle, Tao, tous ces mouvements-là. Mais ça évolue en fait en fonction de
pas,
mes envies.
Pas de bouquin business, non.
Alors, en fait, au début, j'avais lu pas mal de bouquins business. Là, récemment, j'ai lu la biographie du fondateur de Patagonia.
Ah ouais.
Confession d'un entrepreneur pas comme les autres. Enfin,
ouais.
Incroyable.
Ouais.
J'avais aussi lu la biographie de Steve Jobs, le fondateur de Nike.
Gros pavé, mais passionnant.
Shoe Dog.
Exactement. Donc non, ceux-là, je les ai faits.
On arrive à la fin du podcast. On a nos petites questions rituelles, sauf si Elisa a envie d'en poser encore une. Non,
non,
c'est
non.
Bon.
Quels ont été, toi, tes plus gros échecs et donc apprentissages et en parler tes plus grandes fiertés et réussites?
Je pense mes plus gros échecs, on va dire que ça a été là sur le fait en fait finalement de pas réussir à faire des modèles rentables dans tout ce qu'on a lancé, que ce soit Bao Delivery, que ce soit Bao Market,
Denver Pool. Il y a eu assez peu de déchets quand même.
Ouais.
mais il y a eu assez peu de déchets de ce qu'on comprend.
Ouais, oui, mais du coup ça a été des choses qu'on a voulu lancer, auxquelles on croyait, et on a dû arrêter. Donc ça, je pense qu'en termes de business, ça a été des échecs. Et après mes plus gros succès. Je pense que mes plus gros succès, c'est même que ce soit à la fois notre équipe et les clients qui nous suivent depuis le début. Enfin, c'est-à-dire que maintenir pendant 5 ans une fidélité client plus une fidélité des salariés, alors qu'en fait le marché est en mouvement permanent, qu'il y a toujours des nouvelles choses, que beaucoup de choses se passent, que l'économie en fait est en crise, que en fait malgré tout ce chaos externe, qu'on arrive toujours à maintenir une fidélité de nos clients et de nos salariés, je trouve que c'est pour moi, c'est un gros enjeu, parce que je voulais vraiment que l'ADN, tu vois, puisse se transmettre, en fait, malgré la croissance, ou avec la croissance. Et tu vois, ça, on y est, quoi. Et moi, je trouve ça hyper beau à voir.
Ouais. Ça a l'air, en effet, très sain et c'est très solide. Ça donne une impression de solidité. Enfin, vous êtes sur vos bases. Haute fierté, j'imagine, tes parents sont fiers de toi maintenant.
Oui.
Tu les as rassurés? Ton père te fait plus la gueule?
Ah non, mais là, ça y est, mes parents, ils ont rajeuni. C'est un truc de ouf. Ils ont 5 ans de moins par rapport. Non, mais ils sont tellement heureux.
Elle les
avait
stressés au début et là, maintenant,
exactement.
Ça y est.
Non, ils sont hyper heureux là.
Ouais.
Non, ça fait trop plaisir à voir.
C'est une belle fierté. On est un peu plus perso là.
Ouais.
Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe? T'en as dit déjà. Mais...
Alors moi, je pense que je suis vraiment une rêveuse. Et pour moi, il faut jamais, aucun rêve n'est trop grand ou trop fou.
Ouais.
Et que limite, quand on te dit que tu es folle ou que c'est complètement fou, c'est là que tu sens que tu tiens le bon truc.
Il faut commencer par rêver. Hein.
C'est ça.
Et qu'on trouve toujours de l'argent si on pitche un bon projet, qu'on est bien accompagné, qu'on s'est posé les bonnes questions.
Beaucoup,
espère aider sur les sujets qu'on ne connaît
beaucoup,
pas.
Beaucoup, beaucoup d'enseignements dans ce podcast.
Est-ce que tu peux donner un petit cadeau aux auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, un bon plan bouffe à partager, des conseils de livres, de podcasts, de films, d'adresses?
Alors, en livre, pour ceux qui entreprennent, j'en conseille un, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est incroyable. En tout cas, sur le management, ça aide énormément.
La stratégie au sens guerrier, mais qui s'applique au business.
Exactement. Et justement, comment on embarque des équipes, ça m'avait énormément inspirée. Si vous voulez vous détendre, plutôt poétique et philosophique, c'est 5 méditations sur la beauté de François Cheng.
Bon.
Là, c'est incroyable. Ça te transforme ta vie.
Ouais.
et la manière dont tu vois le monde, ça m'a aussi beaucoup aidée, surtout dans les moments en fait down, parce qu'on a tous des moments down pendant l'entrepreneuriat. Et moi, c'est un livre auquel lequel je me référais en fait pour me finalement me dire que enfin que il fallait que je continue à faire ce que je faisais. Donc en lecture c'est celle-ci. Et après en adresse, franchement Faubourg d'Aimant. Ouais. Parce que
Alice,
c'est
Alice, qu'on salue.
Exactement.
Et qu'on remercie pour sa question.
Exactement, parce que vraiment elle fait une cuisine qui est extraordinaire. Elle travaille les sauces comme personne, que avec des légumes. Et je pense que c'est une vraie claque et que ça mérite le coup d'aller voir.
Et sans transition, ma dernière question. Dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, donc du coup, je t'ai un peu orienté dans cette transition, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme prochain invité?
On va y regarder quelqu'un d'autre.
Ouais. Alice, déjà.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu Rudy
non,
de
non,
PNY.
Non, PNY, non.
Parce qu'en fait, ce que je trouve hyper intéressant chez Rudy, c'est que là, il a lancé vraiment, lui, son studio d'architecture, en fait, au sein de Paris New York.
D'accord. Architecture de restaurant.
Architecture de restaurant. Et donc, en fait, il a vraiment monté son studio en interne. Ah, il design.
C'est business.
Ouais, c'est magnifique ce qu'il fait.
Voilà. Et c'est magnifique. Même, il est vraiment devenu designer et les pièces de chaises qu'il fait sont reconnues dans le monde du design.
Ouais.
Et en fait, je trouve qu'il a fait une très belle transition
ouais.
entre voilà, un grand gérant de restaurateur et maintenant, il est passé de l'autre côté, il est passé designer.
C'est vrai que c'est intéressant, cet angle-là. Et en plus, on a aussi le parcours successful d'un entrepreneur du business de la bouffe. Mmh. Très
exactement.
Bonne recommandation. Bah, là, on a déjà deux noms. Bah, écoutez, merci à toutes les deux. On
merci
a Elisa une dernière question. Non, je crois qu'on est bien. Céline, si tu veux poser une dernière, enfin, répondre à une dernière question. Non, on a tout couvert. C'est génial.
Merci pour vous. C'était hyper riche comme conversation.
Bah, merci Céline. Merci Elisa pour cet épisode très riche et à très bientôt.
À très vite.
À bientôt.
Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.